Bienvenue à notre rencontre hebdomadaire sur WhatsApp CMC. Aujourd'hui, nous allons parler des 7 lois pour l'exaucement de nos prières. Prions. Seigneur, nous te bénissons parce que ta parole est une lampe à nos pieds. Ta parole nous transforme. Ta parole nous lave et nous purifie. En ce moment, nous avons besoin que par ton esprit, tu nous parles au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Psaume 91, verset 15 dit, « Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse et je délivrerai, je le glorifierai. » La Bible nous rassure que lorsque nous invoquerons Dieu, non seulement il nous répondra, mais il nous délivrera. Comment se fait-il donc que beaucoup de chrétiens expérimentent des situations contraires et deviennent parfois découragés parce que désemparés au sujet de l'exaucement de leur prière? Ils ne comprennent pas pourquoi, malgré tout ce qu'ils font, leurs prières ne sont pas exaucées. Il y en a qui pensent qu'à force de répétition de leurs prières, ils seront exaucés, ignorant ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6, verset 7, qui dit qu'en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Voilà pourquoi nous allons parler de cette condition importante ou cette loi importante pour recevoir l'exaucement de nos prières. Nous allons découvrir donc les principes et les lois spirituelles de l'exaucement des prières. La première loi pour l'exaucement de nos prières, c'est la soumission. La Bible nous dit dans Hébreux, comment est-ce que Jésus a prié et nous pouvons apprendre de ce qu'il a fait. Hébreux chapitre 5, verset 7 dit, « C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes, les prières, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété. » Ici, on nous explique pourquoi les prières de Jésus le Fils de Dieu furent exaucés par son Père. La Bible nous dit que ses prières furent présentées avec larmes et supplications. Ceci montre que Jésus était entièrement soumis à son Père. Cette soumission est la première condition pour s'approcher de Dieu si nous voulons que nos prières soient exaucées. La soumission a quatre ingrédients importants. L'humilité, l'obéissance, le respect et l'amour. L'humilité, c'est une valeur cruciale parce que l'orgueil est une chose qui bloque les chrétiens de recevoir de Dieu. Parce que l'orgueil est destructeur. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 5, verset 5, « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » L'obéissance et le respect sont des prérequis pour la soumission. Un Dieu que tu ne veux pas obéir et respecter, tu ne peux pas déclarer lui être soumis. Et enfin, Dieu a besoin que tu manifestes l'amour. Nous devons toujours nous rappeler cela, car c'est la base d'une relation forte avec Dieu. Sans l'amour de Dieu dans ton cœur, tu ne peux pas aimer Dieu. Comment faire donc pour montrer le type de soumission que Jésus a eu envers son Père? Dans Matthieu chapitre 26, versets 39 et 42, il est écrit « Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Nous voyons ici que Jésus nous donne une condition pour la soumission, en refusant de mettre sa volonté avant celle de Dieu. Jésus nous a donné un modèle à suivre lorsque nous prions. Dans cette prière, il a inclus un principe. Il est écrit que nous devons demander que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Lorsque nous prions, nous devons demander que sa volonté soit faite, non pas la nôtre. En d'autres mots, si ma volonté est différente de celle du Seigneur, alors c'est la volonté de Dieu qui sera primée et non la mienne. S'il y a un conflit entre la volonté de Dieu et la mienne, celle de Dieu, c'est celle-là que je privilégie. La prière, c'est un merveilleux ministère disponible pour tous les chrétiens. Dans la Bible, il n'y a pas un récit de Jésus enseignant ses disciples comment prêcher, mais il leur a enseigné comment prier. La deuxième loi pour l'exaucement, c'est avoir la foi. Hébreux chapitre 11, verset 6 dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » La foi, c'est la condition de base pour être accepté dans la présence de Dieu. Tout croyant qui s'approche de Dieu doit le faire à condition qu'il croit. Il doit croire deux choses particulières. Premièrement, que Dieu existe et deuxièmement, qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. La plupart des gens croient que Dieu existe, mais cela ne suffit pas parce que nous devons aussi croire que Dieu rémunère celui qui le cherche d'un cœur sincère. Est-ce que tu crois cela? Certaines personnes disent « oui, j'essaye, mais comme je ne connais pas la théologie, je ne sais pas si cette fois, si c'est la foi-là que je dois proclamer. » La bonne nouvelle, c'est que la foi dont nous parlons n'a rien à voir avec la théologie. La foi dont nous parlons ici parle de notre relation avec Dieu. C'est le fait d'avoir totalement confiance en Dieu et en ses capacités. C'est une foi qui dit « je dépends entièrement de Dieu ». Genèse chapitre 15, verset 6 dit « Abraham a eu confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice ». La foi est si forte que la foi d'Abraham fut considérée comme une œuvre de justice. La foi démontre la réalité de ce que nous espérons. C'est la manifestation des choses qu'on ne peut pas voir. Hébreux chapitre 11, verset 3 dit « C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. » La troisième loi, c'est « approcher Dieu avec courage ». Hébreux chapitre 4, verset 16 dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Quand nous prions, nous nous approchons de quelqu'un qui est roi. Ce n'est pas n'importe quel roi, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui a dit que toute autorité m'a été donnée sur la terre comme au ciel. Son trône, c'est un trône de grâce. La grâce est quelque chose qui va au-delà de ce que nous pouvons accomplir par nos capacités. Nous nous approchons du trône de la grâce sans être limités par ce que nous méritons ou par ce que nous pouvons faire par nos efforts. Quand nous venons devant son trône, nous le faisons avec confiance, sans condamnation. Nous devons venir libres de toute condamnation, de quelque sorte. Le psaume 66, verset 18 dit « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » La condamnation vient chaque fois que je regarde à mes péchés, mes insuffisances, je me sens condamné par les pensées de Satan. Satan déverse sur moi pour me dire que je n'ai pas le droit de venir devant Dieu. Cela peut être un péché qui n'a pas été confessé, ou même, quand cela a été confessé, je n'ai pas demandé et reçu le pardon de Dieu. Hébreux chapitre 4, verset 16 dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. » Pour m'approcher de Dieu, je dois enlever la culpabilité de mon cœur et venir courageusement devant le trône de Dieu, sans a priori ni condamnation. La quatrième loi de l'exaucement de nos prières, c'est avoir un bon motif. Les personnes religieuses ont tendance à se focaliser sur ce qui est externe, comme la manière dont les gens s'habillent ou mangent. Parfois, il est difficile à ces personnes de comprendre que Dieu s'occupe d'abord de l'intérieur avant d'arriver à l'extérieur. La vérité, c'est que Dieu voit premièrement le cœur. C'est reflété dans l'histoire de Samuel quand il a été envoyé comme prophète pour oindre David comme roi. Chaque fois que Samuel voyait les frères de David, il croyait que leur apparence, c'était ce que Dieu voulait. 1 Samuel chapitre 16, verset 7 dit, « Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Dieu ne regarde pas seulement à ce que nous lui demandons quand nous prions, mais il regarde à nos motifs, à nos intentions et pourquoi nous voulons ce que nous demandons. Jacques chapitre 4, verset 2 à 3 dit « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » Une manière simple pour ne pas recevoir de Dieu, c'est de ne pas demander. Une autre raison, c'est que nous demandons avec un mauvais motif. Ici, Jacques souligne un motif qui nous empêche de recevoir de Dieu, à savoir pour la satisfaction de nos passions. Quand nos prières sont centrées sur nous-mêmes, nos prières sont mauvaises. C'est ce qui se passe quand nous prions pour satisfaire la chair. Nous demandons seulement pour notre satisfaction et nos besoins de sécurité personnelle. Beaucoup de chrétiens sont bloqués à ce niveau dans leurs prières. Quel est le bon motif pour nos prières? Jean chapitre 14, verset 13 dit « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Jésus nous donne donc une merveilleuse promesse que tout ce que nous lui demanderons en son nom, il le fera. Cependant, la base de cette requête doit être que le Père soit glorifié dans le Fils. Le motif pour une prière exaucée est donc que la prière apporte la gloire à Dieu. Voilà donc un bon motif pour nos prières. Le Père est-il glorifié dans le Fils par tes prières? La cinquième loi de l'exaucement des prières est « Pardonne à ceux qui t'ont fait tort ». Matthieu 6, 12 à 13 dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. C'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. » Nous n'avons pas le droit de prier pour notre délivrance quand nous n'avons pas pardonné aux autres leurs torts. Marc chapitre 11, versets 25 à 26 nous dit « Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Si tu te tiens donc dans la prière, tu dois d'abord t'assurer que tu n'as rien contre quelqu'un dans ton cœur. Sinon, tu es comme un hypocrite devant Dieu. Dieu voit toutes ces choses dans ton cœur. Ceci s'adresse bien aux chrétiens, puisqu'ils sont les seuls qui ont pour Père Dieu. La sixième loi est « Sois conduit par le Saint-Esprit ». Romains chapitre 8, verset 14 dit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Nous vivons dans ce monde comme des fils et des filles de Dieu, en se laissant continuellement guidés par le Saint-Esprit. Ce que l'apôtre Paul dit dans ce verset est surtout applicable à notre vie de prière. Romains chapitre 8, verset 26 à 27 dit « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » Enfin, la septième loi est « Demander selon la volonté de Dieu ». Cette loi est la loi est liée à la loi précédente qui était d'être conduit par l'Esprit. La condition de base est de prier selon la volonté de Dieu, car si je le fais, je sais que Dieu m'écoute et qu'il m'exauce. La question est « Comment donc faire ? Comment donc savoir quelle est la volonté de Dieu ?» La réponse se trouve dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est pleine de promesses qui nous font comprendre et connaître la volonté de Dieu. 2 Pierre chapitre 1 verset 4 dit « Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. » Bien-aimé, quand vous lisez une promesse de Dieu dans la Bible, cette promesse est la volonté de Dieu pour vous. Dieu ne fait pas de promesses qu'il ne peut pas tenir. Dieu ne dira jamais « J'ai promis, mais je ne veux pas le faire ». Si nous prions donc selon la parole de Dieu révélée dans les Écritures, et nous ne ferons jamais, alors nous ne ferons jamais une plus puissante prière que celle-ci. Guidés par le Saint-Esprit, nous allons dans la parole de Dieu et nous trouvons une prière correspondant à notre situation et nous faisons cette prière. Si vous faites ainsi en ayant rempli les conditions précédentes, vous découvrirez l'efficacité des prières exaucées. Seigneur, je prie que ces lois spirituelles puissent être comprises par ton peuple et qu'ils ne soient plus dans le désarroi au sujet de l'exaucement de leurs prières au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen et amen.